Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui change pas mal de choses pour les entreprises en France, la facturation électronique obligatoire. On s'appuie sur un guide d'études assez détaillé sur cette réforme. Notre mission, en tirer l'essentiel pour bien comprendre ce qui nous attend.
Oui, bonjour. Effectivement, c'est bien plus qu'une simple histoire de logiciel. C'est vraiment une refonte de la manière dont les infos de transaction circulent et sont contrôlées.
Ok, alors, allons-y. Concrètement, une facture électronique, dans ce contexte, c'est quoi exactement? Parce que ce n'est pas juste un PDF envoyé par mail, j'imagine.
Non, tout à fait. Une vraie facture électronique, au sens de la loi, comme par exemple le format Facturix, qui est un peu hybride d'ailleurs, mi-PDF lisible, mi-données XML structurées pour la machine. Elle est pensée pour être créée, envoyée et surtout reçue dans un format qui permet un traitement automatique.
D'accord.
Un simple scan PDF, ce qu'on appelle une facture numérisée, ça reste une image en fait. Ça n'a pas cette valeur probante native.
Ah oui, la valeur probante. Et le but derrière tout ça? Le guide est assez clair là-dessus.
Oui.
L'objectif numéro un de l'État, c'est la lutte contre la fraude à la TVA, c'est ça? Et puis, faciliter les déclarations de TVA pré-remplies à terme?
Absolument, c'est l'objectif affiché principal. Le modèle choisi, en centralisant les flux, donne à l'administration une vision quasi immédiate des transactions.
Un contrôle quasi en temps réel, en somme.
Le fameux modèle en Y.
Le modèle en Y, hein? Alors ça, expliquez-nous un peu.
Imaginez la lettre Y. Au lieu d'aller tout droit du fournisseur au client,
oui.
La facture doit obligatoirement passer par une des branches du haut du Y. Soit le portail public de facturation, le PPF, qui est la solution de l'État, gratuite.
D'accord.
Soit une plateforme de dématérialisation partenaire, une PDP. Ça, ce sont des boîtes privées agréées par l'État qui offrent souvent des services en plus.
Donc la facture transite forcément par un de ces deux types de plateformes.
Exactement, PPF ou PDP.
Oui.
Avant d'arriver chez le destinataire.
Ok, ce modèle en Y qui centralise via PPF ou PDP, je vois bien l'intérêt pour le contrôle fiscal. Mais est-ce qu'on ne crée pas une dépendance un peu forte à ces plateformes, voire des goulots d'étranglement?
C'est une bonne question. Le système repose sur l'agrément, la supervision de ces PDP par l'État pour garantir, en théorie, la fiabilité et l'interopérabilité. L'idée, c'est que la concurrence entre PDP et l'alternative du PPF public doit offrir le choix.
D'accord. Et une fois que ma facture est sur une plateforme, comment le système sait où l'envoyer?
Ah, bonne question. Grâce à un annuaire centralisé, c'est un registre en gros qui liste chaque entreprise et dit « elle utilise telle plateforme pour recevoir ses factures », que ce soit le PPF ou une PDP spécifique.
C'est cet annuaire qui fait le routage alors?
C'est ça. Il assure que la facture partie d'une plateforme arrive bien sur la bonne plateforme de destination.
Compris. Le guide insiste aussi beaucoup sur une différence clé e-invoicing et e-reporting. C'est quoi la différence?
Ah oui, ça c'est fondamental de bien saisir. L'e-invoicing, c'est l'obligation d'émettre et de recevoir ses factures électroniques structurées via les plateformes PPF ou PDP pour les transactions entre entreprises assujetties en France, donc le B2B domestique pur.
Ok, B2B France uniquement.
Voilà. L'e-reporting, c'est différent. C'est l'obligation de transmettre à l'administration fiscale les données des transactions qui ne sont pas couvertes par l'e-invoicing.
C'est-à-dire ?
Par exemple, les ventes aux particuliers, le B2C. Ou alors les ventes à des entreprises à l'étranger, le B2B international. Là, on n'envoie pas la facture via la plateforme au client, mais on envoie un rapport de données à l'administration.
Donc si je résume, e-invoicing, la facture B2B France qui circule via les plateformes. E-reporting, juste des données envoyées à l'État pour le reste, B2C, international. C'est ça?
C'est tout à fait ça. Le périmètre n'est pas le même et l'action non plus. Transmettre une facture versus transmettre des données synthétiques. Et ça a un impact sur la conservation.
L'archivage, oui. Qu'est-ce qui change là?
Le point important, c'est que l'archivage qui fait foi, l'archivage légal, doit se faire dans le format électronique original.
Structuré.
Ah.
Garder juste une impression papier de cette facture électronique, ça ne suffira plus pour avoir la pleine valeur légale et fiscale. C'est le fichier natif, XML ou mixte, qui compte. D'accord, très clair. Bon alors, si on récapitule pour être sûr que tout est bien ancré, cette réforme impose un format électronique spécifique, structuré, type facture X. Elle change le circuit avec ce modèle en Y, passage obligé par PPF ou PDP, et l'annuaire pour savoir où ça va. Et elle couvre d'un côté l'invoicing pour le B2B en France, la facture elle-même, et de l'autre l'e-reporting pour les autres flux, comme le B2C ou l'international, juste les données. Le tout avec un but fiscal clair, moins de fraude et demain des déclarations plus simples.
C'est une excellente synthèse. Vous avez mis le doigt sur les points essentiels. C'est vraiment une mutation structurelle de la façon dont les flux transactionnels sont gérés en France. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante pour l'avenir, non? Si demain, toutes ces transactions B2B passent par ces plateformes, sont répertoriées dans l'annuaire et qu'on ajoute les données agrégées de le reporting, quelles nouvelles analyses ou même optimisations pourraient émerger de cette vue d'ensemble quasi en temps réel de l'activité économique? Au-delà des objectifs purement fiscaux initiaux, bien sûr. Voilà, peut-être une piste de réflexion pour la suite.